Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. François Bernard.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute d'Accent du Monde. Comme tous les vendredis soirs sur RFI, on évoque les moments forts de l'actualité avec les rédactions en langue, autre que le français de votre radio. Et ce soir, dans le studio de Radio France Internationale, les Tourang de la rédaction vietnamien. Bonsoir.
Si, ciao.
Et Asbel Lopez de la rédaction en espagnol. Bonsoir.
Buenas noches.
Merci de votre collaboration à cette émission. D'habitude, vous l'aurez remarqué, nous sommes quatre hein, pour présenter cette émission, mais une vilaine grippe a empêché le quatrième larron de se joindre à nous. Alors, nos voeux de prompt rétablissement aux malades, qui regrettent, je le sais, de ne pas pouvoir être présents, à ce rendez-vous hebdomadaire sur RFI. Une absence qui va libérer un petit peu de temps d'ailleurs et qui va nous permettre en deuxième partie d'émission d'écouter un peu de musique, puisque je vous ai demandé à tous les deux de nous faire entendre un morceau significatif de votre zone d'émission et je vous ai préparé moi aussi une petite surprise musicale. Mais pour l'instant, on s'arrête sur l'actualité la plus chaude, alors que les indépendantistes en Catalogne cherchent comment reprendre le pouvoir d'une certaine manière après avoir reconquis la majorité au Parlement régional et après avoir infligé une défaite, on peut le dire, au gouvernement espagnol qui, on s'en souvient, les avait destitués, ces indépendantistes, après leur tentative de sécession. Alors, Asbel Lopez, de la rédaction en espagnol de RFI, vous avez lu la presse espagnole. Est-ce que les journaux en Espagne parlent aisément de la victoire des indépendantistes catalans?
Oui, bien sûr, mais plutôt dans le sens de victoire amère, ou même de victoire pour rien. C'est le cas, par exemple, d'ABC. Pour le journal conservateur, même ceux qui arrivent en tête ne vont pas avoir accès, finalement, au pouvoir qu'ils convoitaient. Ces élections sont celles des perdants, en commençant par le gagnant Ciudadanos. À quoi bon avoir gagné une élection si après vous n'allez pas pouvoir gouverner? Du côté de Puigdemont et Junqueras, les choses ne sont pas simples non plus. À quoi bon gouverner s'ils ne pourront pas atteindre leurs objectifs? Et jusqu'ici, nous avons parlé seulement de ceux qui ont arrivé en tête. Quant à ceux qui sont loin derrière, comme le PP de Rajoy et le Partido Popular, que dire, se demande l'éditorialiste de ABC. Juste une chose, le parti conservateur PP a réussi à freiner l'indépendantisme, mais c'est Ciudadanos qui va en profiter. Ciudadanos, rappelons-le, c'est le parti rival du PP dans le bloc constitutionnaliste.
D'accord, alors beaucoup d'Espagnols, en commençant par le Premier ministre Rajoy, mais aussi tous les partis unionistes, s'attendaient à une défaite des indépendantistes. Ça n'a pas été le cas, on l'a vu. Comment les médias espagnols analysent-ils ce résultat?
Alors, El Mundo constate qu'il est évident qu'un pourcentage très élevé des électeurs catalans ont donné la priorité aux sentiments les plus primaires, au lieu de suivre des considérations strictement idéologiques ou rationnelles. Sa conclusion est sévère. C'est extraordinairement inquiétant que le mensonge, la trahison et l'échec de l'indépendantisme n'aient pas été punis par les électeurs.
Et selon les médias espagnols, la situation continue donc d'être bloquée en Espagne.
En effet, l'horizon ne se dégage pas en Catalogne, souligne El País, le titre de l'édito du journal de Madrid est justement « futur incertain ». Selon El País, le début de la prochaine législature sera compliqué même pour les gagnants, les indépendantistes, car c'est eux qui sont en capacité de former une majorité, mais il ne sera pas du tout facile de la mettre en place. C'est pour cela que le journal parle d'éventuelle majorité absolue indépendantiste. Les indépendantistes n'ont pas une majorité sociale suffisante pour légitimer la rupture avec Madrid. Leurs candidats manquent de crédibilité, leurs programmes ne sont pas cohérents entre eux. Surtout, ils n'ont pas l'unité stratégique nécessaire pour fonctionner de façon coordonnée, explique El País.
Et vu les résultats, Asbel, de cette élection, il semble qu'il va falloir compter avec autre chose que pour résoudre ce défi indépendantiste en Catalogne. Est-ce que les médias parlent aussi de l'Union européenne, de la communauté internationale?
Eh bien, la communauté internationale, en particulier nos partenaires européens, ont fermé la porte à un projet comme celui qui prend les indépendantistes, écrit El País. Ce projet indépendantiste s'est révélé, selon ce journal, profondément anti-européen.
Voilà, et de ces élections en Catalogne et analyse et décryptage, on en parle toute la soirée, bien évidemment, sur et dans les journaux de RFI à suivre donc. Merci, Asbel Lopez. Je me tourne vers vous, les Touyang de la rédaction vietnamien. L'avenir de la Catalogne, on en parle encore, il reste plutôt incertain, compliqué, hein, malgré la victoire des indépendantistes. On peut dire que les partis catalans ont mené une campagne atypique, selon vous.
Oui, voilà, parce qu'il est intéressant de préciser que les électeurs catalans sont allés voter hier, mais dans un contexte bien tendu et sans précédent à Catalogne. Et les candidats n'ont eu que 15 jours pour mener leur campagne électorale, c'est très peu. D'ailleurs, le jour du scrutin est tombé jeudi dernier, ça veut dire un jour de la semaine au lieu de dimanche comme d'habitude. Mmh. Et en réalité, cette date obéit à la loi mai 1985 qui stipule que les élections doivent se tenir 54 jours après leur convocation, en l'occurrence le 28 octobre dernier, et ouverte 38 jours après la convocation, soit le 5 décembre. La campagne électorale s'est achevée le mardi 19 décembre à minuit, laissant aux électeurs la journée du 20 comme journée de réflexion traditionnelle avant le vote.
D'accord. Il y a un autre point particulier que vous voulez mentionner, c'est le sort qui est réservé aux principaux candidats indépendantistes.
Alors oui, ils sont soit en prison, comme le cas de l'ex-vice-président de Catalogne, Oriol Junqueras. Il n'a presque pas pu faire la campagne, limité à 10 appels téléphoniques par semaine depuis sa prison, en laissant la direction en fait, à la secrétaire générale de son parti. Ou bien, ils sont en exil, comme le cas de l'ancien président destitué Carles Puigdemont. Il sera arrêté s'il rentre en Espagne, vu des mandats d'arrêt à son encontre. Et Carles Puigdemont avait déclaré le 12 décembre dernier qu'il reviendrait en Espagne s'il pouvait être investi président et qu'il n'y ait pas d'arrestation à la clé. Il pourra alors commencer une négociation.
Et avec les résultats d'hier, finalement, seuls les séparatistes semblent en mesure de former un gouvernement.
Alors, c'est vrai, mais vu la situation actuelle des dirigeants, l'investiture des nouveaux chefs de gouvernement risque d'être un processus long et chaotique. Si aucun gouvernement n'est formé avant fin mars, de nouvelles élections devront être convoquées dans les 2 mois qui suivront. Et une autre particularité, c'est le premier ministre espagnol Mariano Rajoy, qui a voulu décapiter l'indépendantisme catalan, devient le grand perdant des élections. Son parti populaire a perdu 8 sièges en Catalogne. Et enfin, le taux de participation des électeurs a créé une grande surprise avec le record de 83%. Les Catalans sont restés très mobilisés par ce scrutin, perçu comme un nouveau référendum sur l'indépendance après le placement de la région sous la tutelle de Madrid.
Donc, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy subit un camouflet, dites-vous, à l'occasion de cette consultation. Mais finalement, le plus grand perdant, c'est l'économie de la Catalogne et de l'Espagne.
Oui, alors, parce qu'avec ce résultat, l'avenir de la Catalogne est encore incertain, on est d'accord, puisque cette situation persiste, plus l'économie de la région la plus riche d'Espagne subit des impacts marquants. Donc, le tourisme est le tout premier victime directe de cette crise indépendantiste. Les arrivées de touristes étrangers ont chuté de 5% en octobre, ce qui provoque la baisse de 10 à 15% du chiffre d'affaires des professionnels du tourisme en octobre et novembre dernier, et surtout à Barcelone. Et l'avenir du secteur ne s'annonce pas bon non plus dans les 3 prochains mois, car on a enregistré une baisse de 10% des réservations hôtelières à Barcelone.
Et le tourisme représente 12% du PIB de la Catalogne. Il emploie plus de 400 000 personnes, dont beaucoup de contrats précaires.
Alors, il est évident que moins de touristes signifie aussi la hausse du chômage, mais plus accentuée encore par rapport à la même période de fin de contrats estivaux. Et d'après une enquête de l'école de commerce ESAD, 46% des patrons catalans ont gelé leur investissement et 25% d'entre eux embaucheront moins que prévu en 2018. Ouais. Et un autre prix à payer pour l'indépendantisme, c'est le départ de plus de 3100 sociétés par crainte de l'insécurité dans la région ou par peur d'un boycott de leurs produits, dont les grandes banques. Bien que ces entreprises ne présentent qu'environ 1% du total des sociétés catalanes, mais elles comptent de grands groupes posant à eux seuls 30% du PIB régional, comme le gaz naturel ou bien la société des autoroutes Abertis.
Et en parallèle de ces départs, eh bien les investisseurs, notamment étrangers, hésitent encore davantage à mettre la main à la poche.
Ben, ce n'est pas une bonne nouvelle non plus pour les autorités, parce que les investissements dans la région ont déjà chuté de près de 75% au troisième trimestre, soit avant le référendum. Et ça, ce sont les chiffres communiqués mercredi dernier par le ministère de l'Économie. Et la note de la dette de la Catalogne risque d'être abaissée. Le FMI et l'OCDE craignent aussi un ralentissement de la croissance espagnole pour 2018.
Bon, merci à vous, Les Tuang. Accent du monde comme chaque vendredi sur RFI avec aujourd'hui donc Les Tuang, on vient de l'entendre, de la rédaction vietnamienne, et Asbel Lopez de la rédaction en espagnol. Avec vous, on va au Pérou, Asbel. Le président Pedro Pablo Kuczynski a échappé à la destitution. Or hier, je vous croise dans les couloirs, vous me dites que c'est presque sûr que vous allez nous parler aujourd'hui de sa destitution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
La vida te da sorpresa. Ce sont les surprises de la politique. Il a échappé à la destitution jeudi grâce à 19 voix contre la motion, 21 abstentions et 10 élus qui ne se sont pas présentés. Pourtant, hier, on s'attendait tous à la destitution du président Pedro Pablo Kuczynski, connu sous ses initiales PPK. Car le Parlement est contrôlé par l'opposition. En plus, il y a une semaine, 93 législateurs ont voté oui à l'ouverture du processus de destitution. Or, il ne fallait que 87 pour qu'il soit destitué. C'est pour ça qu'on s'est dit, c'est tout ce que Kuczynski allait devenir le premier président à tomber à cause du méga scandale de corruption Odebrecht. Or, finalement, il a manqué 8 voix à la motion présentée au Congrès pour contraindre le chef de l'État à la démission.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous, parce que avant le débat, le président Kuczynski avait appelé les parlementaires à mettre de côté ses défauts, disait-il, pour protéger la démocratie péruvienne de ce qu'il a appelé une tentative de coup d'État organisée par la force populaire, l'opposition de droite.
Il faut savoir que Force Populaire est un parti créé par des partisans de l'ancien président Alberto Fujimori et dirigé par sa fille Keiko Fujimori. Fujimori est en prison, je vous le rappelle. Keiko, sa fille, souhaitait le départ de Kuczynski. Selon elle, il est moralement inapte à gouverner après la découverte d'un lien entre ses anciennes entreprises et l'affaire Odebrecht. Mais ce désir n'est pas partagé par tous les membres de son parti. 10 députés de Force Populaire se sont malgré tout abstenus. Une députée de Force Populaire, Cecilia Chacón, a affirmé devant la presse que le gouvernement avait promis à une faction de son parti que Fujimori serait libéré de prison si les députés Force Populaire apportaient leur soutien à Kuczynski. Le gouvernement a bien évidemment démenti. Autre explication, c'est tout simplement que la destitution de Kuczynski entraînerait très probablement des élections et certains élus estiment qu'il serait très difficile pour eux de se faire réélire car il y a un climat de colère généralisé contre la classe politique au Pérou.
Eh bien, merci de ces éclaircissements, Asbel Lopez. Je reviens vers vous, Les Tuang, parce que Noël approche et ça nous rappelle la décision du président Donald Trump de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. La rédaction vietnamienne a cherché les raisons qui ont poussé le président américain donc à faire cette déclaration. Hein.
Oui, alors nous avons posé la question au professeur universitaire Lê Đình Thông, voilà, il est français mais d'origine vietnamienne, qui enseigne à Paris Nanterre. Écoutons-le.
Alors,
il dit que la décision de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem est soutenue par le lobby pro-israélien aux États-Unis et plusieurs milliardaires américains mais d'origine israélienne comme Sendong Adelson ou Morton Klein. Et depuis près de 30 ans, les conservateurs de l'Association nationale des évangéliques ont une influence à la politique étrangère des autorités américaines. Et la première utilisation du terme évangélique dans son sens américain moderne correspond à la création aux États-Unis de cette association en 1942 avec les théologiens connus George Whitefield ou John Wesley. Et d'après un sondage mené en 2005 par Gallup, 42% des Américains sont protestants évangéliques, dont 56% soutiennent la politique pro-israélienne du Parti républicain.
Voilà, explication du professeur de l'université vietnamien. Rappelez-nous son nom.
Lê Đình Thông,
voilà. On rappelle aussi que le président Trump a largement, cette décision a largement été condamnée à l'ONU hier.
Alors, l'Assemblée nationale générale de l'ONU adopté à une large majorité une résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et sur les 193 pays membres, 128 votent pour cette résolution et 9 contre, 35 pays décidant de s'abstenir. Et la veille, Donald Trump avait mis en garde les pays tentés par un vote menaçant de couper les financements américains. Ça veut dire que cette année, Jérusalem passe Noël sous tension, pas en paix, comme on souhaite souvent à cette occasion de fête.
Allez, je vous avais promis un petit peu de musique en fin d'émission. Qu'est-ce qu'on écoute en ce moment, Thuang?
Oui, alors c'est la version vietnamienne de Jingle Bell, interprétée par la chanteuse Hang Nga, dans laquelle on souhaite la paix, la mutualité et la prospérité. Et on entend très souvent des chansons catholiques comme celle-ci pendant la période de Noël au Vietnam, alors que la plupart des gens sont bouddhiques.
Oui, et comment on fête Noël au Vietnam? Racontez-nous un peu.
Alors, Noël est l'occasion de sortir pour les Vietnamiens, pour les croyants ou pas, en famille ou en amoureux, surtout pour admirer les sapins illuminés ou bien les décorations des églises. Les jeunes et surtout les amoureux aiment bien s'offrir de petits cadeaux pour être à la mode occidentale, comme on dit chez nous. Et des familles catholiques se retrouvent comme en France autour du repas de Noël et puis ils vont à la messe.
Allez, on écoute quelques secondes de ce jingle bell vietnamien. Musique encore avec vous, Asbel Lopez. Vous avez, vous, choisi un morceau enregistré dans les studios de RFI par des musiciens sud-américains, c'est ça?
En effet, cubains et colombiens, mais aussi, il y a aussi des français. Il s'agit de Nadia Moria, interprétée par la Tamayo Salsa Music. C'est une chanson enregistrée au studio 1 de RFI. Mardi, Jean-Paul Tamayo et ses 10 musiciens ont fait un concert de fin d'année dans le cadre de l'émission Paris América, de la Salsa Dura Paris avec Tamayo.
Et ça pulse.
Todos estaban en lo mismo, pensando a quién invitar, quiénes serían las nenas, con quién salir a bailar, a quién llamaríamos ya, quién iríamos a buscar. De pronto pensamos en llamar a nadie a morir.
Allez, je vous ai fait une petite sélection, moi aussi. D'abord, un morceau qui a un lien direct avec l'accent du monde, puisque le chanteur qu'on va écouter est vénézuélien. Il s'appelle Yadam. Il a participé dans son pays à un radio-crochet organisé par les alliances françaises qui lui a permis de venir en France. Et là, il s'est inscrit à un concours télé qui s'appelle La Nouvelle Star. Alors, il n'est pas arrivé premier, il est arrivé second quand même, mais il a gagné le cœur des Français en chantant des classiques de la chanson française, comme celle-là, empruntée à Julien Clerc.
Sert une chanson si elle est désarmée, mais tissée déchignant, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle en emporte quel quartier.
Voilà le prometteur Yadam. On va finir avec Johnny Hallyday qui vient de mourir et qui a eu droit à un hommage national tant il était populaire. On va écouter la chanson de lui préférée des Français, une rencontre entre deux monstres sacrés, puisqu'elle a été écrite par Jean-Jacques Goldman, chantée donc par Johnny Hallyday sur sa fille Laura.
Laura, il y a tant d'hommes que je ne suis pas. Il y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. Oh, oh Laura.
Voilà, c'est la fin d'Accent du Monde. Merci à tous les deux, Thuang Le, les Thuang de la rédaction vietnamien, Asbel Lopez de la rédaction en espagnol. Merci à Jean-Philippe Thury qui réalise cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale. À nous.